Vous écoutez France Inter, il est 18h. Le journal, Camille Huppenoir. Bonsoir Camille.
Bonsoir. Marche arrière pour le contrôle technique des deux roues. Instauré hier par décret au journal officiel, il est suspendu sur demande du président de la République. Pourquoi cette volte-face? Emmanuel Macron a-t-il entendu les protestations des fédérations de motards? Explication en début de journal. L'extension du pass sanitaire en France depuis lundi concerne aussi les bibliothèques, obligeant parfois les agents à refuser l'entrée à des publics précaires qui n'ont pourtant que la Bibli pour s'informer ou avoir accès tout simplement à Internet. Le Japon enregistre un nombre de contaminations record au coronavirus, situation inédite dans l'archipel. Le corps médical déplore une baisse de vigilance malgré l'état d'urgence en vigueur. L'autre actualité de la journée, c'est le bassin méditerranéen qui cuit sous un dôme de chaleur inédit. Les températures battent des records, près de 50 degrés en Italie, du jamais vu.
France Inter.
C'est un freinage inattendu pour le contrôle technique des deux roues. Hier, un décret au journal officiel confirmait son entrée en vigueur en 2023 avec un contrôle obligatoire tous les deux ans pour les deux roues, trois roues et quad à moteur. Mais la mesure est désormais suspendue. Même si elle est imposée par la législation européenne, elle provoque, on vous le disait hier, la grogne des fédérations de motards en France. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
La suspension du contrôle technique des deux roues annoncée tout à l'heure, on la doit à Emmanuel Macron. Le président de la République est intervenu.
Oui, Emmanuel Macron a décidé, nous explique qu'un conseiller, que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. On leur demande déjà beaucoup avec la crise sanitaire, avec le pass. On peut être pour la sécurité sans embêter les gens dans leur quotidien. Voilà comment l'Élysée justifie ce demi-tour présidentiel. Ses proches assurent même qu'Emmanuel Macron, figurez-vous, a découvert lui-même hier la publication du décret au journal officiel. Mauvais timing, en plein cœur de l'été, regrette-t-on au ministère des Transports, qui ne voudrait surtout pas laisser penser que le gouvernement a tenté de faire passer ce contrôle technique en catimini. Sauf que cette réforme, en fait, est connue depuis des années. Elle découle d'une directive européenne, vous le disiez, de 2014 et ne doit s'appliquer qu'à partir de 2023. Les associations de motards ne peuvent pas dire qu'on a voulu les prendre par surprise. Non, la réalité est plus simple. Alors que les opposants au pass sanitaire parviennent à mobiliser en plein été, alors que ses adversaires politiques tentent de capitaliser sur les tensions sociales, alors qu'ils redoutent une rentrée tendue à 8 mois seulement de la présidentielle, Emmanuel Macron a voulu s'éviter une contestation supplémentaire et bruyante.
Merci Simon Le Baron. Feuilleton à suivre, on y reviendra d'ailleurs dans le journal de 19h. Une enquête est ouverte en Gironde après la plainte d'un médecin d'Arcachon qui s'est aperçu que son compte professionnel sur le site de l'assurance maladie avait servi à éditer 55 faux certificats de vaccins destinés selon toute vraisemblance à des personnes n'ayant pas reçu d'injection. L'assurance maladie indique que les procédures pour faux et usage de faux passes sanitaires se multiplient ces dernières semaines. Sans ce passe sanitaire, pas d'accès depuis lundi au restaurant, au café ou encore aux bibliothèques. Et c'est une mesure plus qu'inhabituelle dans ces lieux universels et gratuits d'accès à la culture. Plusieurs bibliothèques parisiennes étaient en grève ces derniers jours pour protester contre le pass sanitaire aux entrées, où des agents sont parfois contraints de refuser l'accès à certains publics précaires pour lesquels les bibliothèques sont parfois le seul moyen de s'informer ou simplement d'accéder à Internet. Reportage à la bibliothèque Vaclav Havel dans le 18e arrondissement de Paris avec Sébastien Sabiron.
Bonjour monsieur, je contrôle le pass sanitaire s'il vous plaît.
Pas de souci, en plus j'ai fait un imprimé-écran.
Une barrière, des affiches à l'entrée et des contrôles plutôt bien tolérés par les visiteurs, parfois à contre-cœur.
Si j'étais pas vaccinée, j'aurais pas le droit de venir emprunter des BD. Ça m'ennuie d'avoir à montrer le pass pour avoir le droit de le faire.
Mais il faut aussi essuyer quelques regards agacés, voire des insultes déplacées. Thierry, bibliothécaire.
Ce qui est pas facile à gérer, c'est aussi ce qui est tagué sur le sol, pass sanitaire avec des symboles ESS, des réflexions Yavol ou Collabo.
Dans ce quartier de l'Est parisien, la bibliothèque Vaclav Havel est aussi un havre de paix pour certains migrants qui y trouvent internet, une prise électrique ou simplement de quoi s'asseoir. Pascal Ferry, responsable de la bibliothèque.
Les bibliothèques sont un lieu d'accueil inconditionnel et universel pour tout le monde. Le pass sanitaire suppose une restriction d'entrée. Dans beaucoup de cas, pour ces publics les plus précaires, ce document, ils ne l'ont pas. Donc on essaie de les réorienter vers des lieux où on peut faire des tests antigéniques ou un centre de vaccination à proximité, en particulier quand ils n'ont pas de carte vitale.
Et le problème se pose aussi en zone rurale. estime Alice Bernard, qui préside l'Association des bibliothécaires de France.
Madame Michu, qui a besoin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, elle passe par la bibliothèque pour avoir accès à Internet. Et au final, on se retrouve à être obligé de la recaler à l'entrée.
Les bibliothèques spécialisées, universitaires et à Paris, la BPI comme la BNF sont exemptées de passe sanitaire.
Le reportage de Sébastien Sabiron pour France Inter. Le passe sanitaire, vous l'avez sûrement enregistré dans votre téléphone portable, cet outil qui garde beaucoup de nos précieuses données. Faut-il s'en méfier ? Avons-nous un espion dans la poche ? On poursuit le débat ce soir dans le téléphone sonne. Rendez-vous à 19h15 et dès maintenant pour vos témoignages ou vos questions au 01 45 24 7000. Près de 20 000 contaminations au coronavirus aujourd'hui. Le Japon n'a jamais connu une telle situation et elle se produit juste après les Jeux Olympiques de Tokyo et juste avant les Jeux Paralympiques, ce qui ravive les tensions entre les pros et les anti-JO. Les autorités japonaises calment le jeu. Elles réfutent tout lien entre les Olympiades et cette cinquième vague de l'épidémie. Cette cinquième vague qui serait due au variant Delta et selon le corps médical à une baisse de la vigilance malgré l'état d'urgence en vigueur. 5000 contaminations quotidiennes à Tokyo où le système de soins est au bord de l'effondrement, Karine Nishimura.
Les appels à la prudence par haut-parleur à travers la ville n'y changent rien. Les contaminations explosent à Tokyo. Norio Omagari, médecin et expert auprès de la municipalité.
Les infections augmentent à une vitesse sans précédent. La situation est hors de contrôle, à un niveau d'urgence similaire à celui d'une catastrophe naturelle. Il faut revoir drastiquement les mesures prises pour freiner les contacts entre personnes.
Les tests ne suivent pas. Le taux de positivité atteint désormais plus de 22%. Les services médicaux sont saturés, les ambulances tournent en rond et 30 000 patients sont soignés à domicile. Masataka Inokuchi, vice-président de l'Association des médecins de Tokyo.
Il est devenu difficile d'hospitaliser les patients Covid-19 dont l'état s'aggrave brusquement. Au rythme actuel, le système de soins ne pourra pas être maintenu. Plusieurs patients sont déjà morts à domicile.
Cependant, la gouverneure de Tokyo, qui mise sur les vaccins et compte maintenir les Jeux paralympiques, s'en tient au rappel de principes de base, sans amplifier les dispositions prises qui ne sont plus guère respectées. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Les talibans progressent à une vitesse folle en Afghanistan. Herat, la troisième plus grande ville du pays, est désormais sous leur contrôle. Et selon nos informations, ils se sont également emparés de Kandahar, deuxième ville la plus peuplée d'Afghanistan. Plus d'informations dans le prochain journal à 19h. Une vague de chaleur record qui n'épargne quasiment personne sur le bassin méditerranéen, de la Turquie à l'Algérie en passant par la Grèce. La canicule a attisé ces derniers jours de nombreux incendies. Ils ont fait au moins 69 morts dans le nord de l'Algérie. Dans le sud de l'Italie, 4 personnes sont décédées. La Calabre est particulièrement touchée par les feux de forêt. Et dans la Sicile proche, on a enregistré hier une température qui devrait, si elle est homologuée, devenir le record de chaleur en Europe. 48,8 degrés. L'anticyclone baptisé assez justement Lucifer qui traverse la Méditerranée fait exploser tous les thermomètres sur son passage. Frédéric Nathan est prévisionniste à Météo France.
Il n'a jamais fait aussi chaud en Europe depuis qu'on fait des mesures. Donc c'est des températures vraiment exceptionnelles. Alors on l'explique à la fois par la situation météorologique et aussi parce qu'on a depuis plusieurs semaines maintenant une masse d'air particulièrement chaude sur le Maghreb. Et quand la situation météorologique s'y prête, c'est cette masse d'air très chaud remonte sur le sud de l'Europe. C'est pour ça qu'on a pu observer fin juillet, début août, des températures exceptionnelles sur tout le sud-est de l'Europe, entre la Grèce, jusque la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie, on a battu de nombreux records. Et puis aujourd'hui, cette masse d'air déborde à nouveau. Donc on a effectivement ce record européen, mais aussi un record absolu de température hier en Tunisie, à Kairouan, avec 50,3 degrés. C'est vraiment des températures, c'est du jamais vu en Tunisie, quoi. Et bien, nombreux records également du côté de l'Algérie.
Frédéric Tatan, prévisionniste à Météo France. En Algérie, frappée par la canicule et les incendies dans le nord, la solidarité s'organise pour venir en aide aux habitants qui ont tout perdu. La région Île-de-France apporte une aide de 100 000 euros aux associations humanitaires qui interviennent sur place. C'est ce qu'a annoncé la présidente de région Valérie Pécresse sur Twitter. Une bonne nouvelle tout de même sur le front des incendies. En Grèce, la pluie qui tombe depuis hier aide les pompiers à maîtriser les feux, même si plusieurs sont toujours en cours sur l'île de Bé et dans le Péloponnèse.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Les couleurs du ciel avec Elodie Calac de Météo France. Bonsoir Elodie.
Bonsoir à tous.
Attention aux orages sur la France.
Oui, on a 13 départements en vigilance orange actuellement, du Massif central vers les Alpes, le sud de la Bourgogne et le Jura. On attend encore des orages forts hein, jusqu'en première partie de nuit, avec des pluies parfois intenses, de la grêle, des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km à l'heure, donc soyez vraiment prudents. Demain, ce sera plus calme, alors il restera quelques averses dans l'est le matin, des nuages bas près de la Manche et sur le sud-ouest, mais on n'en parlera plus l'après-midi. En revanche, on aura à nouveau un petit orage possible sur le Massif central et les Alpes l'après-midi sous l'effet de la chaleur.
5 départements, Élodie, sont aussi en vigilance canicule. Cette fois sur le sud-est.
Oui, Drôme, Ardèche, Var, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes. Alors cette nuit, on ne descendra pas en dessous des 20 à 25 degrés sur le quart sud-est. C'est éprouvant pour l'organisme. 15 à 20 degrés ailleurs, 13 à 16 près de la Manche. Et puis l'après-midi, vous aurez 20 degrés à Cherbourg, 24 à Lille, 28 à Paris et à Angers, 31 degrés à Limoges, 32 à Strasbourg ou à Toulouse, 34 du côté de Lyon, de Bastia, jusqu'à 35 à Narbonne, 37 à Marseille, 38 prévus à Nîmes. Et on pourrait même aller jusqu'à 40 en Provence et en Basse-Vallée du Rhône.